journal de Christelle Robière. Bonjour Christelle.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
À la une, la flamme a fait long feu. Les JO de Pékin s'achèvent à la mi-journée. Nous dresserons le bilan de ces jeux placés sous le signe du Covid. Et nous y reviendrons dans le journal des sports de Laetitia Bernard. Les autres titres.
La diplomatie peut-elle encore éviter la guerre en Ukraine? Emmanuel Macron s'entretiendra tout à l'heure au téléphone avec Vladimir Poutine. La France a demandé à ses ressortissants de quitter le pays. Dans ce journal, à votre bon cœur, Christiane Taubira lance un appel aux dons pour financer sa campagne qui patine. Un Tour de France des jeunes pour sensibiliser les électeurs au climat. Un accident de chasse, une randonneuse a été tuée par une balle perdue dans le Cantal. C'est une jeune fille de 17 ans qui est à l'origine du tir mortel. Et le retour en force du ski alpin. Non, le Covid n'a pas changé les habitudes. Les raquettes sont remisées au placard.
Le grand entretien à partir de 8h20 avec cette question. Le français est-il envahi par les anglicismes? L'Académie française s'en inquiète dans un rapport. Nous allons en débattre avec nos invités. La linguiste Julie Neveu et l'écrivain et universitaire Antoine Compagnon, élu cette semaine à l'Académie française.
France Inter.
Le rideau tombera donc vers 13h heure française sur les Jeux Olympiques d'hiver à Pékin, cérémonie de clôture. On retiendra la neige artificielle, la vraie qui a perturbé certaines épreuves, des exploits à foison, du dopage et un public rare. Bonjour Sébastien Berriot.
Oui, bonjour.
Vous êtes en direct de Pékin, tout près du nid d'oiseau où aura lieu la cérémonie. Et le Covid, finalement, n'a pas trop gâché la fête.
Effectivement, ce que la Chine voulait éviter à tout prix, c'est de se retrouver au cœur d'un énorme cluster olympique. C'est vrai que le risque était réel de voir des athlètes venus du monde entier contaminer une partie de la population de Pékin. De ce point de vue-là, la bulle sanitaire mise en place par les autorités, souvent critiquée, aura été particulièrement efficace. Moins d'une dizaine de cas ont été recensés à Pékin pendant les Jeux. Autant dire que l'impact sanitaire des JO sur la population a été proche de zéro. Alors cette bulle, il faut le dire, a tout de même sérieusement atténué la magie de l'événement avec toutes les contraintes parfois angoissantes imposées aux athlètes. Mais les organisateurs font valoir que les compétitions, malgré une épidémie mondiale, ont pu se dérouler de façon normale. Les seules annulations ont été décidées pour des raisons météo. Pour la Chine, berceau du Covid, ces jeux ont servi de vitrine pour montrer les bénéfices de la politique zéro Covid, même si tout n'a pas fonctionné. Au sein de la bulle, il y a eu tout de même plusieurs centaines de cas positifs, notamment en raison des différences de sensibilité entre les tests chinois et ceux pratiqués ailleurs dans le monde. Certaines images resteront comme ces athlètes en larmes après avoir été testés positifs et placés à l'isolement dans des hôtels.
Bon. Et dans ce pays, Sébastien, qui n'est pas connu pour ses sports d'hiver, c'est le moins qu'on puisse dire, les athlètes chinois se sont révélés.
Oui, effectivement, la Chine n'est pas vraiment une nation de sport d'hiver. On sait qu'avec ces Jeux, le pouvoir chinois avait pour ambition de percer dans ce domaine, avec derrière notamment une ambition économique. Paris réussit, on peut le dire, puisque la Chine est troisième au tableau des médailles. Des athlètes chinois comme Gua Yiling ont véritablement marqué ces Jeux. Là, pour le prochain défi, maintenant pour les Chinois après les sports d'hiver, eh bien c'est le football, puisque les Chinois, on le sait, ont pour ambition d'organiser un jour la Coupe du Monde de football.
Sébastien Berriot en direct de Pékin. Merci. Côté français, le compteur des médailles est bloqué sur 14. On y reviendra dans le journal des sports avec Laetitia Bernard.
L'Élysée veut encore y croire. Il reste de la place pour la diplomatie afin d'éviter une guerre en Ukraine.
Emmanuel Macron s'entretiendra par téléphone à 11h avec Vladimir Poutine, mais le cessez-le-feu a été violé plus de 1500 fois dans la seule journée d'hier, d'après l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Deux soldats ukrainiens sont morts. L'Allemagne et la France ont demandé à leurs ressortissants de quitter le pays. David Franck est conseiller des Français de l'étranger en Ukraine. Il va prendre l'avion demain pour rentrer en France sans son épouse qui reste là-bas, mais il demeure confiant pour la suite.
J'ai pas peur pour elle parce que je ne crois pas que l'Ukraine, voire Kiev, sera bombardée. Ça ne rentre pas dans mon petit cerveau. Non. Je ne peux pas croire que la folie de Poutine aille jusqu'à bombarder Kiev. J'ai confiance dans le peu de cerveau qui peut rester dans certains dirigeants de puissance. Oui, ça peut déboucher sur un conflit, mais je pense qu'il serait très localisé à l'Est. Leurs manipulations, les vidéos faites en avance montrent très bien qu'ils cherchent à montrer le prétexte, à donner le prétexte pour que les Russes arrivent en sauveur. On n'est pas dupes, personne n'est dupe. Et je dois dire que les Ukrainiens ont un sang-froid remarquable, extraordinaire. et que j'espère que l'Europe aura le même.
David Franck, interrogé par Cyril Destrac. Le président ukrainien ne veut pas riposter aux provocations russes le long de la ligne de contact dans les régions séparatistes pro-russes. À Moscou, on se défend de toute provocation et les politiques reprochent aux Occidentaux d'être aveuglément pro-ukrainiens. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
Vyacheslav Volodine, le président de la Douma, la chambre basse du Parlement russe, s'est offusqué de l'attitude des Occidentaux devant la masse de civils contraints de fuir les républiques autoproclamées de Donetsk et de Lugansk. Il leur reproche de ne pas se soucier du sort des femmes et des enfants qui sont contraints de fuir la guerre. Alors qu'au même moment se tient à Munich la conférence sur la sécurité. Il les accuse encore de justifier le comportement des autorités ukrainiennes, menaçant de sanctionner Moscou dans le cas où la Russie viendrait en aide aux séparatistes. Konstantin Kossachev, président du comité des affaires étrangères de la Douma, va plus loin. Il s'étonne du fait que les Occidentaux ne fassent pas de remontrance à Kiev pour les violations du cessez-le-feu dans le Donbass et s'en prennent aux seuls séparatistes. C'est à ses yeux une trahison de l'idéal et des valeurs libérales occidentales selon lesquelles les individus et leurs droits sont censés être au-dessus de toute situation politique. Et Konstantin Kossachev d'enfoncer le clou en affirmant que les populations n'attendent qu'une chose des politiciens, qu'ils empêchent la guerre d'éclater. Moscou, Jean-Didier Revoin, France Inter.
À 49 jours du premier tour de l'élection présidentielle, de nouveaux ralliements au-delà du clivage gauche-droite. L'ancienne ministre socialiste Marisol Touraine affirme dans Le Parisien que le vote utile, c'est Emmanuel Macron, tout comme Elisabeth Guigou. D'après le journal du dimanche, cette dernière travaille déjà dans son équipe de campagne. À gauche, la candidature de Christiane Taubira vire au calvaire, lâchée par le parti des radicaux de gauche. Encalminée à 3% dans les sondages, elle n'a pour l'instant que 86 parrainages sur 500 et elle est contrainte à lancer sur Twitter un appel aux dons pour financer sa campagne.
En attendant les 500 parrainages, nos moyens sont limités. Aussi, je viens vous informer que nous avons lancé un appel aux dons et je viens vous demander votre contribution, aussi modeste soit-elle. Je sais que pour certaines et certains d'entre vous, 5 ou 10 euros, c'est un repas de famille, ce sont des cahiers scolaires, c'est de l'essence pour aller travailler. Je vous demande une contribution à la hauteur de ce que vous pouvez. Je vous propose d'additionner nos efforts pour ne pas renoncer à cette campagne, pour ne pas renoncer à cette élection comme si elle était perdue, parce que nous ne voulons pas abandonner les Françaises et les Français qui ont tant besoin de changement.
Christiane Taubira et son appel aux dons. Le pouvoir d'achat, la santé, la sécurité restent les trois principales préoccupations des Français dans cette campagne. Pour le climat, on regarde toujours ailleurs. Alors une centaine de jeunes militants se mobilisent. Ils vont partir tout à l'heure à midi de Paris pour un tour de France à pied ou à vélo. 3000 kilomètres avec une vingtaine de villes-étapes pour réveiller l'opinion. Célia Quiré.
Ils ne font pas campagne pour un parti ou un candidat. Ces militants comme Sacha Delage, à l'initiative du Relais Jeunes, veulent surtout se passer le témoin pour placer la question climatique au cœur des priorités. Sinon, les jeunes s'abstiendront encore plus.
On a l'impression de ne pas être entendu, de crier dans le vide. Si les candidats et candidates ne veulent pas s'emparer de ces sujets, on ne va pas attendre. On va le faire nous-mêmes. On va faire vivre ce débat de fond partout dans les universités, dans les tiers-lieux, dans les fermes en transition, partout sur le territoire. On va être entendu.
L'agriculture à Dijon, les transports à Aix-en-Provence, la préservation de l'océan à La Rochelle. Plusieurs thèmes seront abordés en fonction des villes. Ces étudiants ne créent pas de nouvelles plateformes de revendications, mais ils veulent montrer que des solutions déjà connues ne sont pas assez portées dans le débat. Lou Garcia, étudiante en master de politique environnementale, regrette par exemple que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ne soient pas mieux utilisées.
L'enjeu, c'est pour ça qu'on marche, c'est qu'en fait ça nous prend aux tripes et qu'on ne peut pas, dans un temps aussi important que sont les élections, ne rien faire. Les solutions existent. On veut leur redonner de la force en montrant qu'elles sont nombreuses, concrètes, et qu'elles peuvent avoir du poids en fait, dans les décisions qui vont être prises pour les prochaines années.
Ces militants passeront également par des villages pour porter leur voix dans les campagnes. Ils seront quelques dizaines au départ, mais espèrent convaincre d'autres jeunes de continuer la marche avec eux. Ils espèrent mobiliser 20 000 personnes sur leur chemin.
Célia qui irait. Un terrible accident de chasse hier dans le Cantal.
Une randonneuse de 25 ans est morte touchée par une balle perdue lors d'une battue au sanglier sur la commune de Casagnouz, près d'Aurillac. L'auteur du tir a été identifié, Adrien Serrière. Il s'agit d'une jeune chasseuse de 17 ans.
Une chasseuse qui est bien en possession du permis de chasse, il est accessible dès 15 ans. Elle participait à cette battue au sanglier organisée par l'association de chasse de la commune. Battue qui avait commencé en Aveyron avant de se poursuivre dans le Cantal. On se trouve en fait ici à la limite entre les deux départements, dans la vallée du Lot. La randonneuse tuée se promenait, elle, avec son compagnon sur un sentier balisé. Elle a été atteinte au niveau du haut du corps par une balle perdue. Les secours n'ont pas pu la réanimer. Les circonstances de ce tir vont devoir être précisées. Les enquêteurs vont interroger les chasseurs. La tireuse elle-même n'a pas pu être immédiatement entendue. En état de choc, elle a été transportée à l'hôpital d'Aurillac. Les tests d'alcoolémie et de stupéfiants sur l'adolescente sont en tout cas négatifs. Une enquête est maintenant ouverte pour homicide involontaire.
Et le drame devient politique sur Twitter. Bérangère Abba, la secrétaire d'État à la biodiversité, évoque un drame insoutenable et inacceptable. Elle évoque des décisions à venir pour que ça ne se reproduise pas. Il nous faut réglementer cette activité, dit l'écologiste Yannick Jadot. Il y a urgence. Les balades en raquettes, en ski de randonnée, le vélo sur neige et même la trottinette sur neige. Souvenez-vous, l'an dernier, les amateurs de ski avaient découvert de nouveaux plaisirs, faute de remontées mécaniques à cause du Covid. Mais l'effet découverte a-t-il duré ? Cédric Régnier gère un magasin de location à La Plagne en Tarentaise.
En fait, retour à la normale, 100%. L'année dernière, c'était l'opportunité et le manque de choix. Donc, on a loué du ski de randonnée, de la raquette. Et là, maintenant, ski alpin à fond. Voilà. Le ski de randonnée, c'est redevenu tout à fait pratique normale à La Plagne. Et la raquette, il y a un petit marché pour ça, mais il n'a pas évolué. La crise de l'année dernière ne l'a pas fait évoluer. Ouais. Et dès que les remontées mécaniques sont ouvertes, les gens font du ski alpin. Pour moi, il n'y a pas eu de changement de comportement lié à la crise Covid et fermeture des remontées mécaniques.
Cédric Régnier au micro d'Annabelle Galotti de France Bleu, Pays de Savoie.
8h12, le journal des sports.
Bonjour Laetitia Bernard.
Bonjour.
Bonjour. Une dernière journée aux Jeux Olympiques de Pékin sous le signe du froid et de la déception dans le camp tricolore.
Et oui, alors les concurrentes du ski de fond notamment ont dû lutter contre le vent tout à l'heure et elles grelottaient à l'arrivée du 30 km. Alors qu'a priori, une épreuve pareille quand même, ça réchauffe. Bon, en tous les cas, épreuve remportée par la Norvégienne Thérèse Jog et pas de dernière médaille dans le camp français. Le compteur restera donc à 14, soit une de moins qu'en Corée du Sud il y a 4 ans. Bonjour Guillaume Batin.
Bonjour Laetitia.
En direct de Pékin pour France Inter. À quelques heures de la cérémonie de clôture, on peut faire un premier bilan sur le plan sportif. Une médaille de moins, mais concrètement, cette Olympiade, elle reste dans la lignée de la précédente.
Oui, 14 médailles à Pékin contre 15 à Pyeongchang et Sochi. On est dans la stabilité proche du record. Le bilan est bon. Après, lorsque l'on regarde dans le détail, c'est toujours le biathlon qui rafle quasiment toutes les médailles. J'exagère un petit peu, mais 7 au total. 5 rien que pour la star Quentin Fillon-Maillet qui n'a pas volé son rôle de porte-drapeau ce soir pour la cérémonie de clôture. L'autre discipline reine, c'est le ski alpin. 3 médailles, or, argent, bronze pour Noël Claret-Fèvre. Meilleur bilan depuis Grenoble 68, mais zéro pointé chez les dames. Et puis deux leaders qui ont déçu, Alexis Pinturault et Tessa Worley. D'autres déceptions aussi au ski, c'est Tesle 2 qui a gagné la médaille d'argent, c'est vrai, en big air, mais qui a été en dessous de son niveau en Coupe du Monde. Et puis le seul gros échec finalement, c'est celui de Perrine Laffont, hyper favorite, qui échoue à la 4e place du ski de boss. Un gros coup de chapeau quand même à nos amis norvégiens, 5 millions d'habitants, première nation à Pékin, comme à Pyeongchang, comme à Sochi, avec, tenez-vous bien, 37 médailles, dont 16 en or.
Effectivement, pas mal. Merci beaucoup, Guillaume Batin.
Oui. Cérémonie de clôture à partir de 13h.
Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire.
On passe au football. Les Nantais étaient presque aussi heureux que des champions olympiques hier soir.
Oui, Nantes qui a fait chuter le Paris Saint-Germain. Alors, est-ce que le leader de la Ligue 1 était un peu fatigué ou relâché après sa victoire contre le Real Madrid en Ligue des Champions? Toujours est-il que le trio Messi, Mbappé, Neymar n'a rien pu faire à la Beaujoire. Les Nantais donc s'imposent 3-1. Mention spéciale au gardien Alban Lafont et à ses 8 arrêts. Et c'est l'entraîneur Antoine Comboiré qui résume la joie de toute une équipe.
C'est grandiose, c'est énorme, c'est quelque chose de fantastique, c'est même unique de dire que tu mènes 3-0 à la mi-temps contre le PSG. T'as rêvé de tout, mais sauf de ça. Donner des émotions là, aussi grandes, aussi fortes que celle-ci, je pense que ouais, tu les vis rarement donc, dans ta carrière de joueur et dans ta carrière d'entraîneur. Quoi. Parce qu'en face, c'était donc un grand PSG, Messi, Mbappé et puis Neymar. Donc la performance, elle est encore plus grande, quoi, sur le plan de la joie que je peux ressentir, c'est immense.
La joie aussi pour l'équipe de France féminine de football hier soir, vainqueur du Brésil 2-1 dans le tournoi de France.
Merci Laetitia Bernard.
Et merci à vous Christelle Robière pour ce journal. Le temps.
La météo avec Vitacitral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Jean-Michel Golinski.
À retenir aujourd'hui la douceur englobant l'ensemble du pays avec par exemple cet après-midi 12 degrés à Lille, Nantes et Strasbourg, 14 à Rennes, Lyon, Cognac et Paris, 15 le long de la Garonne et 18 à Nîmes, Perpignan, Toulon et Montpellier. Si aujourd'hui le soleil va rapidement s'imposer autour de la Méditerranée et des Alpes aux Pyrénées avec un mistral et une tramontane modérée, sur le reste du pays, malgré des trouées cet après-midi par la façade atlantique, c'est plutôt une ambiance maussade et ventée qui va marquer la journée, mêlant pluie faible et rafales aux environs de 60 km à l'heure. En soirée, pluie et vent vont redoubler au nord de la Seine avec des rafales qui vont se renforcer jusqu'à 110 km à l'heure sur la Seine maritime, la Somme et le nord Pas-de-Calais, d'ores et déjà placés en vigilance orange.
Jean-Michel Golinski, Météo France.